Avec des auditeurs en ligne qui ont des questions, des interrogations ou des mécontentements, des sujets de mécontentement sur la formation du nouveau gouvernement. D'abord Philippe qui nous appelle de Fontainebleau. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je m'interroge sur le fait que l'on puisse continuer à présenter des ministres aux élections législatives quand on affirme en même temps le principe du non-cumul des mandats. Cette continuité dans cette pratique me paraît illogique avec cette reconnaissance aujourd'hui de tout le monde de cette logique de non-cumul de mandat. Donc voilà, c'est ma question. J'aimerais savoir comment peut-on justifier cette pratique aujourd'hui.
C'est-à-dire que le ministre, s'il est élu aux législatives, laissera sa place à l'Assemblée à son suppléant.
Voilà, absolument. Puis de toute façon, pourquoi se présente-t-il? Puisqu'on sait que de toute façon, il n'exercera pas la fonction. On sait très bien qu'il se présente parce qu'il utilise son image pour se faire élire, mais c'est quand même une sorte de tour de passe-passe, tout à fait en incohérence avec le principe du non-cumul des mandats.
Thomas Legrand,
c'est pas en incohérence avec le principe du non-cumul des mandats, parce qu'on n'a jamais évidemment pu cumuler un mandat de ministre et de député, puisque c'est deux pouvoirs différents, avec la séparation des pouvoirs, l'exécutif et le législatif. De tout temps, sous le général de Gaulle, où on pouvait cumuler les mandats, mais pas ces deux-là, évidemment, de tout temps, les ministres qui voulaient se présenter aux législatives pouvaient le faire et ne restaient pas députés, évidemment, s'ils voulaient rester ministres. Et c'est une façon un peu de vérifier la légitimité aussi d'une partie du gouvernement. Et là, que le ministre de l'économie se présente et peut-être se fasse battre, il prend un risque parce que dans sa circonscription, près de Évreux, au deuxième tour de l'élection présidentielle sont arrivés en tête Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc il prend un risque et de toute façon on sait que celle qui siégera, puisque c'est une femme je crois, sera sa suppléante. Donc voilà, ça n'est pas en contradiction, ça peut être choquant, mais ça n'est pas en contradiction avec le principe du cumul des mandats qui ne s'est jamais évidemment appliqué entre ministre
et
député.
Et on rappelle un précédent retentissant en 2007, évidemment, c'est Alain Juppé nommé à un très haut rang, il était numéro 2 ou numéro 3, ministre de
l'écologie,
de l'écologie et battu aux législatives, il a dû céder son fauteuil de ministre.
C'est démocratique finalement.
Bon, Franck nous appelle de Caen. Bonjour Franck.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi je suis fonctionnaire d'État. Si je livre mon statut, c'est que j'ai une grosse interrogation par rapport à l'absence d'un ministère de la fonction publique dans la composition du gouvernement. Je suis très inquiet au regard notamment des nombreuses suppressions de postes qu'on a pu entendre ou lire dans les journaux des différents candidats. Je pense notamment à Bruno Le Maire à l'économie, qui proposait 500 000 suppressions de postes, jusqu'à 500 000. Moi, je suis très inquiet par rapport à cette absence de ministère. Est-ce que c'est pas un très mauvais signal envoyé aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, qu'elles soient d'État, territoriales ou hospitalières?
Merci de nous avoir appelé, Franck. Dominique Seux, là-dessus.
Alors, c'est un cas de figure qui a déjà existé, puisque Éric Woerth, dans l'équipe 2007-2012, était en charge à la fois des comptes publics et de la réforme de l'État. Sous le quinquennat maintenant, il y a eu une distinction. C'est Gérald Darmanin qui est en charge à la fois des postes, avec un titre d'ailleurs assez nouveau et original. L'action et les comptes publics, ce qui est, je ne sais pas si c'est pour ne pas dire le mot réforme de l'État, mais en tout cas, c'est pour donner du mouvement. C'est vrai qu'il y a une tonalité qui sera plus proche de Bercy que dans le gouvernement, dans l'équipe de François Hollande. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, lui, s'est engagé sur une baisse du nombre de fonctionnaires, des postes de fonctionnaires de 120 000, ce qui est beaucoup moins que ce qu'avaient dit, évidemment, les uns et les autres, notamment Bruno Le Maire, qui était non seulement sur 500 000 sur un quinquennat, mais quasiment sur 1 million sur deux quinquennats.
Alors, effectivement, il y a des intitulés de ministères qui sont assez sibyllins. Bernard Guetta a souligné tout à l'heure l'innovation ministre des Armées pour le ministre des Affaires
pas une
étrangères.
Innovation.
C'est un retour aux années 60. Le ministre des Affaires étrangères est appelé ministre et baptisé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis il y a un mot qui manque, vous l'avez pas relevé, finance.
Alors,
il n'y a pas finance.
J'ai effectivement failli le dire.
Dans les intitulés.
J'ai effectivement failli le dire dans mon éditorial. sénatorial ce matin, mais en réalité, quand on pense finance, c'est pas la finance, la banque, etc.
Certes,
dans les rangs gouvernementaux, ce sont les finances publiques. Et il est déjà arrivé assez fréquemment, d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même n'était pas ministre des finances, il était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, si je m'en souviens bien.
Il n'y avait pas un ministre des finances.
Il n'y avait pas, non, il y a un ministre du budget.
Du budget, très bien.
Un tout petit mot en plus, on ne peut pas se plaindre constamment, et à juste titre, des gouvernements pléthoriques et déplorer en même temps qu'il y ait des grands ministères qui couvrent des domaines d'action différents. C'est la
oui,
logique
des
choses.
On ne peut pas s'en plaindre, mais il faut quand même voir dans quel ministère sont répartis
les
directions. Et c'est peut-être un peu technique, mais c'est très important. Et politiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Et pour l'instant, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas grand-chose.
Tout à fait, mais on ne peut pas avoir un ministère de tout.
Non, bien sûr.
Plusieurs messages également, c'est pour vous, Thomas Legrand, qui évoque le cas de Gérald Darmanin, qui s'est publiquement opposé à la loi Taubira, au mariage pour tous, et qui a même dit dans un tweet en juin 2013 que s'il était maire de Tourcoing, ce qui est le cas aujourd'hui, même s'il va démissionner bientôt, il ne célébrera pas personnellement de mariage entre deux hommes ou entre de femmes, que dire de cela, Thomas
C'est
Legrand.
Une vraie différence politique. C'est une vraie différence politique, notamment par exemple avec Édouard Philippe, qui lui
s'était abstenu.
S'était abstenu
la loi
et qui en fait est pour, mais qui s'était abstenu par solidarité avec son, pour pas trop se distancer avec son groupe.
Comme
Bruno Le Maire. C'est différent effectivement pour Gérald Darmanin. Ça pose un problème politique, mais en même temps, il est ministre donc, de la fonction publique. Il va pas être en charge de marier des couples homosexuels ou pas. Donc, il y a une différence politique qui est assumée. Voilà, ça peut gêner certains, c'est compréhensible. Mais...
Certains auditeurs l'accusent d'homophobie. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce qu'on l'a trouvé dans ses déclarations ou dans ses propos?
Non, je ne crois pas. Il faut aller rechercher dans ses vieux tweets. Il y a sûrement eu des captures d'écran, si c'est le cas. Mais bon, est-ce qu'on peut considérer que si on est contre le mariage homosexuel, on est homophobe? C'est tout un débat. Ceux qui le considèrent seront gênés par cette question. Ceux qui ne le considèrent pas pourront laisser ça passer. Il n'est pas en charge de la famille, heureusement, pour la cohérence du gouvernement, qui a déjà du souci à se faire pour sa cohérence. Il y a déjà beaucoup de travail pour nous convaincre de la cohérence. Heureusement, Gérald Darmanin n'est pas chargé de la famille.
Mais s'il y a bien une cohérence, et Bernard Guetta l'a souligné tout à l'heure, etc., c'est l'Europe. On a un gouvernement, et c'est peut-être une première fois où ils sont tous européens.
Oui, et puis ajoutons une chose, c'est que le conseiller diplomatique du chef de l'État, c'est-à-dire un homme dont le rôle est absolument essentiel, est lui-même à la fois un ancien représentant de la France auprès de l'Union européenne, et donc un spécialiste vraiment féru des questions européennes, et actuel jusqu'à avant-hier, ambassadeur de France à Berlin. C'est-à-dire que, d'une part, le président de la République a à côté de lui, directement, comme Sherpa, véritablement un spécialiste des questions européennes, et deuxièmement, véritablement, le gouvernement est conçu autour de l'idée de la priorité européenne.
Il y a une question qui se posera, à mon avis, pour Bruno Le Maire. Son tropisme l'emporte bien évidemment sur les questions franco-allemandes et l'euro, puisqu'il s'occupera des ECOFIN. C'est le sujet, c'est le cœur de la machine à Bercy sur les questions de l'euro. Est-ce qu'il s'intéressera autant aux questions fiscales? Il n'a pas montré dans sa carrière jusqu'à maintenant qu'il s'intéressait beaucoup à ces questions-là, mais l'orientation franco-allemande et euro est absolument dominante. Je parle sous le contrôle de Bernard Guetta. Est-ce qu'on a déjà connu une telle orientation dans des gouvernements précédents? Pas depuis longtemps.
Écoutez, je ne le crois pas, même jamais.
Merci.
À ce point, jamais.
Merci Bernard Guetta, merci Dominique Seux, merci Thomas Legrand. On marque une pause avant d'accueillir Frédéric Becbédé.